au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois pour emprunter une autre destination bonheur avec notre invité qui a une feuille de route impressionnante. Après avoir travaillé au Conseil de développement social du Montréal métropolitain au début des années 70, elle obtient une licence en droit de l'Université de Montréal et est admise au barreau du Québec en 1978. Elle assumera par la suite la responsabilité du dossier de la condition féminine au Centre des services sociaux de Montréal jusqu'en 1981. Cette année-là, elle sera élue députée péquiste dans Maisonneuve et sera réélue successivement au gré du temps jusqu'en 2007 dans la nouvelle circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve. Elle a assumé de nombreuses fonctions ministérielles, dont celle de ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, ou encore ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, et même la présidence de l'Assemblée nationale. Une femme très engagée, Madame Louise Arel est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Arel.
Bonjour, Monsieur Dubois.
Une belle feuille de route, je disais dans la présentation. C'est assez évocateur de tout ce que vous avez fait depuis les, disons, les 30 dernières années.
Ben, je vous remercie. Et en plus, je suis grand-mère.
Et ça, c'est une belle occupation aussi, je présume.
Ben, Julien a 11 ans et demi maintenant, déjà. Et puis, Héloïse, 8 ans. Et Catherine attend un troisième enfant.
Quand on regarde les occupations que vous avez assumées au plan politique, elles furent nombreuses, est-ce qu'il y a un portefeuille ou une fonction qui vous a davantage marqué?
Bien, dépendamment des époques, hein, parce que c'est bien sûr quand j'arrive en 94 comme ministre, bon, je l'avais été, mais très courte période de temps, en 84, 10 ans auparavant.
L'année où, d'ailleurs, vous aviez démissionné.
Voilà.
Lorsque M. Lévesque avait pris le virage du beau risque.
Du fédéralisme, c'est ouais. Ça. Parce qu'il demeure, pour moi, que le seul vrai beau risque qu'on n'a pas encore pris, c'est celui de la souveraineté.
Et je fais une parenthèse parce qu'on en parle, mais c'était un geste courageux à cette époque, en 84, de affronter son chef avec quand même d'autres personnes. Il y avait M. Lorrain, il y avait Jacques Parizeau, M. Lessard, je crois.
Bien, il y avait M. Parizeau, Dr. Lorrain, et puis plusieurs autres, en fait, plus qu'une dizaine, ont quitté la politique. Moi, j'ai démissionné comme ministre, mais je suis restée députée. Ça faisait 60 jours là, que j'étais ministre de l'immigration des communautés culturelles. J'avais eu le temps de faire le tour des 5 étages du ministère et puis de converser, pas simplement saluer les mains, mais converser avec les gens en leur disant, vous, plusieurs d'entre vous, êtes là depuis 10, 15, 20 ans. Peut-être avez-vous des projets que vous réaliseriez si vous étiez ministre. Qu'est-ce que vous me proposez? Moi, j'avais fait mon stage du barreau au ministère de l'Immigration des communautés culturelles quelques années auparavant. Alors, revenir comme ministre peut-être 4-5 ans plus tard, j'étais quand même assez modeste dans ma façon d'aborder les choses, en sachant qu'il y avait des gens qui étaient là depuis très longtemps. Mais j'aimais ça beaucoup. Et puis, d'avoir à quitter, je ne l'ai jamais regretté, cependant.
Mais on vous a tout de suite identifié comme quelqu'un de très fort, parce que vous posiez ce geste, et aussi associé à la ligne dure au plan idéologique de votre parti.
Bien, c'est que... Et pourtant, je sais que mon habillement, mon ton de voix ne correspond pas, parce qu'on s'imagine que quand ils ont une certaine manifestation de caractère chez les femmes, ça correspond à quelques... Je sais pas, des milliers de fois, les gens m'ont dit « on vous pensait plus grande ». Ah bon, disais-je, pourquoi donc? Parce que quand on affirme ses idées, on a souvent une image stéréotypée.
Herculéenne, quoi.
On m'a déjà caricaturé avec un poil à frire dans les mains. Et c'est la première fois où j'ai vraiment, vécu avec beaucoup de solitude la politique. Ça a été en 82, il y a déjà quoi, longtemps de ça.
Plus de 20 ans. Là.
C'était au moment des lois spéciales de retour au travail dans la fonction publique. Et puis,
parce qu'on traversait à cette époque une période dure au plan économique, une crise économique véritable.
Tout à fait.
Et le gouvernement, on lui reprochait de renier sa signature.
C'est ça. Mais le fait est que c'était une période extrêmement difficile. Mais on adoptait par décret, à ce moment-là, 75 000 pages de conventions collectives. Et par un décret qui en contenait peut-être pas une et demie, une page et demie. Et là, ça m'a semblé exorbitant. D'ailleurs, par la suite, vous savez que les tribunaux aussi, pour toutes sortes d'autres raisons, linguistiques et autres, parce que ça n'avait pas été traduit, etc., invalideront tout ça. Mais ceci dit, cette fois-là, je me suis levée, ça faisait pas longtemps que j'étais élue députée, puis j'ai voté contre, cette fois-là.
Ça a été... vous, c'était important, cette cohérence à l'égard de vos propres valeurs?
Bien, moi, je pense que si on veut pas avoir de brûlement d'estomac ou pire encore, là, faire des tumeurs ou quoi que ce soit d'autre, c'est physique aussi. Il faut être conséquent avec ses convictions.
Et vous l'avez jamais regretté?
Je ne l'ai pas regretté, mais ça n'a pas été simple parce que j'ai dû chercher au moins pendant 3-4 mois une place où m'asseoir au restaurant du Parlement parce que, bon, je ne voulais pas m'asseoir nécessairement avec le parti adverse qui me tendait les bras.
Et le rejet par vos collègues également?
Ça, c'était dur, oui, c'était difficile parce qu'on passe pour le mouton noir à ce moment-là puis personne ne veut se faire trop voir en notre compagnie. Et ça a été, disons, une période où on apprend que la politique, sous des apparences ultra médiatiques, ultra... ça se vit...
au jour le jour.
Oui,
et ça se joue à la dure.
Oui, ça se joue. C'est-à-dire que il faut être capable aussi de dépersonnaliser. Parce que tout ne se joue pas... Il y a un rituel aussi. Hein? On ne s'appelle même pas par nos noms dans le Parlement. On s'appelle par notre fonction. Mm-hmm. Et on s'interpelle par notre fonction. Alors, il y a un rituel, je sais...
C'est une forme de protection,
oui.
Ça. On se crée une carapace pour effectuer, comme vous dites, cette désincarnation à l'égard de ce que l'on est soi-même.
Cette dépersonnalisation, oui. D'une certaine façon, oui. Parce qu'on ne peut pas le prendre personnel. On représente des courants de pensée, on représente des courants d'opinion et on les exprime. Quand on veut être conséquent avec les gens qui nous ont appuyés, qui nous ont soutenus.
Et ce saut en politique, est-ce que ce fut au départ pour la question linguistique?
Bien, le saut en politique, j'ai été en fait candidate en 81 pour toutes sortes de raisons, mais j'étais déjà très active au Parti québécois. J'avais été élue vice-présidente nationale du parti déjà en 79.
Mais est-ce que la question de la langue était au départ ce qui vous a amené à faire de la politique? Parce qu'on se souvient de cette époque des années 70, les troubles à Saint-Léonard, entre autres, la question de la survie de la langue française.
Bien, c'est la question, c'est le pays qui m'a amenée à faire la politique parce que je voulais être journaliste, en fait, en quittant le séminaire Sainte-Thérèse où j'ai étudié, oui. Qui est par la suite devenu le cégep Lionel Groulx et qui avait accepté des étudiantes à partir de 1962. J'avais déjà beaucoup, en fait, collaboré au journal étudiant. On publiait toutes les semaines à l'époque, le Thérésien. Et c'était Bernard Descoteaux qui était le directeur du journal. Moi, j'en étais la rédactrice en chef.
Celui qui est actuellement l'éditeur en chef du Devoir.
Exactement. Et Jean-Robert Sansfaçon était un des journalistes de l'équipe. Et bon, ben, je me destinais, j'aurais voulu être journaliste. J'avais une
héroïne. Vous allez peut-être le devenir. Souvent, c'est l'inverse qui se produit. Il y a des journalistes qui deviennent politiciens. Il y a des politiciens qui deviennent journalistes.
Mais j'avais l'héroïne Adèle Lauzon. Vous savez, elle a publié d'ailleurs un livre récemment que j'ai beaucoup aimé. Mais ceci dit, c'est donc en m'engageant plus dans la voie, en fait, du pays, parce que je pense qu'il faut passer par la politique pour que le pays puisse advenir.
Je vous parlais du pays, je vous parlais de la langue, qui est un incontournable quand on veut aussi faire un pays. Il y a une chanson qui a cristallisé aussi la situation qui prévalait à l'époque, une chanson qui a été écrite par Gilles Richer et Marc Gélinas et qui a connu son heure de gloire par la grande interprète que fut Pauline Julien. Cette chanson, c'est Mommy, et on vous la dédie.
Je suis contente qu'on l'entende, Pauline Junior.
Mommy, Mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise, Gros Papineau, Gauthier, Ferron, Robichaud, Charbonneau. Mommy, Mommy, how come it's not the same? Oh, Mommy, Mommy, what happened to my name? Oh, Mommy, tell me why it's too late. Much too late. Mommy, Mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Marc-Grand-Mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, Mommy, how come it's not the same? Oh, so much in a name, oh Mommy, tell me why it's too late, much too late. Mommy, Mommy, I love you dearly. Please sing the song you sang when I was a baby. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Mommy, Mommy, I remember the song. Oh, Mommy, Mommy, something seems to be wrong. Oh, Mommy, tell me why. It's too late, much too late. Once again that beautiful story. Un jour, ils partirent de France, bâtir ici quelques villages, une ville, un pays. Mommy, Mommy, how come we lost the game? Oh, Mommy, Mommy, are you the one to blame? Oh, Mommy, tell me why.
Une chanson qui vous ramène un peu en arrière?
Bien, moi, j'ai connu Pauline Julien à l'époque où Gérald Godin était mon collègue. Et bon, ben, c'était une femme de passion. On sait à quel point elle a porté très haut le flambeau de la défense de la nation, du français aussi. Alors, c'est une femme de... Une femme qui n'était pas toujours facile, là, j'ai souvenir de quelques, conversations avec elle, mais elle était toujours passionnante et passionnée.
Mais vous savez qu'on a aussi dit cela de vous. Vos adversaires ont souvent dit que Mme Harel n'était pas une femme facile.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si on devient plus indulgent avec le temps, hein? Peut-être. Mais en même temps, je me rends compte à 62 ans maintenant, alors j'ai été élue à 34 ans députée, je n'ai pas renié aucun des idéaux que j'avais de ma jeunesse. J'ai relu le discours que l'on fait toujours, son premier discours, le tout premier, quand on arrive dans le Parlement, avec cet idéal là, qu'on poursuit. Et je me disais que j'avais poursuivi. Et ça, c'est beaucoup grâce, et ça peut vous apparaître étonnant, grâce à mon père. Parce que mon père était dans l'enseignement. C'était un homme d'une très grande intégrité et qui a beaucoup cru à l'éducation comme outil d'émancipation. Mm-hmm. Et puis, chaque fois que j'avais une décision importante à prendre, notamment en 84, lorsque j'ai démissionné comme ministre et que je le rejoignais. Parfois, il était en voyage. Mais toujours, il appuyait le fait qu'il fallait suivre ses principes, avoir le courage de ses idées, plutôt que de vouloir faire carrière. Puis, dans le mot carrière, j'avais 20 ans quand j'ai compris qu'il y avait aussi le mot arrière et qu'il fallait faire bien attention si on voulait toujours aller de l'avant.
Et quand vous regardez ce désenchantement bien souvent exprimé par la population, on voit les taux de participation lors des élections générales qui sont de plus en plus faibles. Le sentiment également de rejet à l'égard des politiciens. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que la tendance va s'accentuer? Est-ce parce qu'il y a des gens qui en font carrière, comme vous dites?
Bien, je crois que on a un exemple contraire aux États-Unis avec cette immense mobilisation de ceux qui votaient pas, puis qui, pour la première fois souvent de leur vie, ont voté pour Obama.
Un vent d'air frais.
C'est extraordinaire, finalement, d'avoir fait voter ceux qui n'y croyaient plus. Parce que dans une société, finalement, le désabusement, le découragement, ça amène ce faible taux de participation. Mais on peut connaître l'inverse aussi. Ça, il n'en tient qu'à nous, d'une certaine façon.
Est-ce que ce vent va souffler vers le nord, vers le Québec?
Écoutez, je serai la première à m'en réjouir. Ce qui est intéressant dans ce qui se vit actuellement aux États-Unis, c'est qu'il y a comme les indices d'une vraie révolution, là. Des esprits, tout au moins.
Une crise également qui permet de pouvoir imaginer des solutions.
Oui.
C'est souvent une espèce de bouillonnement que permettent les crises pour permettre de trouver des solutions nouvelles.
Et celle qui, à l'évidence, là, pour faire obstacle, si vous voulez, à cette espèce de ce désenchantement-là, dans le fond, les États-Unis vivent depuis 30 ans sous l'ère Reagan, hein, mm-hmm. on peut dire. Et je regardais dernièrement surtout les écrits du prix Nobel de l'économie, Paul Krugman, passionnant. Ça se lit comme un roman. Il y a un ouvrage en français, ça signe, le titre est « L'Amérique que nous voulons ». Alors, il écrit toutes les semaines aussi dans le New York Times. Et ce qu'il décrit, c'est une Amérique où la distribution des revenus stagne depuis 1973. Le revenu moyen médian a quasiment pas bougé. Le syndicalisme aux États-Unis avait perdu tellement de place, c'est inouï. Il était autour de 40 % comme au Canada dans les années 50, puis il est à moins de 10 % maintenant. Et cette distribution de revenus qui n'a pas eu lieu, le plus invraisemblable qui s'est produit, c'est que le système financier s'est considéré comme supplétif, puis a prêté à des gens dont les revenus ne suivaient pas. Et ça a donné finalement la crise financière qui a entraîné la crise économique nous met dans la situation où nous sommes, la crise du capitalisme.
Oui,
en fait.
Et cette concentration monétaire qui s'est retrouvée aux mains d'un très petit groupe également.
Mais c'est inouï, absolument. Mais là, c'est des chiffres aberrants. Mais c'est quelque chose de pas imaginable, des bonus d'un milliard à des personnes. Voulez-vous bien me dire ce qu'ils vont faire avec ça? J'en reviens pas.
Alors, on va prendre le temps de réfléchir à tout cela pendant que Marie-Claire Séguin va nous chanter cette belle chanson que je vous laisse découvrir de Gilles Vigneault.
Il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a que du temps perdu. Touche mes mains, calme mes lèvres, couche tes amour.
il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a que du temps perdu.
Et voilà un autre air frais, cette belle voix, celle de Marie-Claire Séguin. Avec nous aujourd'hui, Mme Louise Arel, vous parliez du...
Marie-Claire Séguin et Richard Séguin ont tous deux été très adolescents, au moment de l'adolescence, ont été très actifs dans un organisme pour jeunes de mon quartier. Et ils ont poursuivi avec fidélité. Ils sont encore récemment et continuellement revenus appuyer, soutenir toutes sortes de causes. Là,
c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire l'implication sociale. On parlait précédemment de la crise du capitalisme. Mais pour vous, quand on regarde un peu votre cheminement, on se dit, malgré les fonctions ministérielles que vous avez occupées, on a l'impression que le rôle de député était d'abord le premier rôle, celui qui vous apparaissait le plus important.
Définitivement. Ça, c'est là où j'ai tout appris. J'ai d'abord appris que si on veut faire vivre la démocratie, il faut accepter que les citoyens sont... je disais toujours à mon personnel du bureau, vous savez, qu'on soit gérant de compagnie, un entrepreneur ou un itinérant, on est un citoyen d'une société. Et il y a quelque chose qui est formidable dans la démocratie en autant qu'on la fasse vivre. Mais ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup servi par la suite comme ministre aussi. Parce que dans mon quartier, la première des choses que j'ai vécues, c'est une grave, grave crise économique, manufacturière, parce que le chantier naval à Vickers a fermé. Ils étaient 1100 quand j'ai été élue députée. Ensuite, tout ce qui est les trains, les raffineries, les trains, il y avait MLW Bombardier pour les locomotives, Angus, ils étaient encore 2000.
Oui, une circonscription qui a vécu difficilement.
Il y avait 25 % de tout ce qui était l'industrie lourde qui se passait dans mon quartier et en l'espace de quelques années, 5-6 ans. La chaussure, entre autres, c'était la ville de la chaussure, avec les quotas là, qui ont fait disparaître, c'est-à-dire avec l'abolition des quotas qui ont fait disparaître.
Est-ce qu'on se sent interpellé personnellement?
Ben, oui, par les gens qu'on aime, parce que c'est ça qui est formidable, c'est de vivre avec des gens que l'on apprend à aimer beaucoup et qui, avec le coude à coude aussi, et qui, sinon, peuvent apparaître. Parce que le danger, c'est ça qui est l'immense danger dans nos sociétés, c'est qu'on vit dans des univers complètement différents, puis on s'en rend pas compte. Et le métier de député, ce qu'il permet de vivre, c'est de traverser tous ces univers, des gens les plus démunis, qui sont parfois des itinérants ou dans la rue, jusque, si vous voulez, les gens puissants de notre société.
Et vous avez probablement été ce phare dans la nuit, dans les ténèbres qu'a traversé votre circonscription à une certaine époque. Louise Forestier dirait que vous avez probablement été une lune au ciel de Montréal.
J'espère.
Un escalier pour aller jusqu'à toi. Un rendez-vous qui n'attendait que nous. Ce rendez-vous fera chanter les heures passées à se recoudre le cœur. Chanter les heures.